Avant d'aborder quand même les questions, j'ai deux annonces supplémentaires à vous faire. Monsieur Jean-Charles m'a demandé de compenser pour un oubli tout à l'heure. Il rappelle que nous avons dimanche prochain après-midi la réunion d'église, le dimanche 22 janvier. Donc, réunion d'église prévue à partir de 14h. Et, initiative très intéressante, pendant le temps de la réunion d'église, des activités manuelles et des jeux sont prévus, organisés pour les enfants. De telle sorte que ceux qui viennent avec leur famille ne devraient pas être gênés. Les moniteurs ont prévu ce service et nous leur en sommes d'ailleurs très reconnaissants. Et puis en ce qui concerne l'annonce qui a été faite sur la journée théologique organisée par la faculté évangélique samedi prochain, le lieu c'est le Palais de la Femme, donc ce n'est pas à Vaux-sur-Seine, c'est à Paris, au Palais de la Femme, rue de Charonne, 94 rue de Charonne, c'est près du métro Charonne, pas très loin de la Nation. Ça commence non pas à 9h45, mais à 9h30. 9h45, c'est le premier exposé qui commence, mais il y aura un quart d'heure d'introduction. Alors, ceux qui arrivent à 9h45 arrivent trop tard. Donc, 9h30, le début. Et donc, vous y êtes tous bien convenus, le sujet étant la vision chrétienne de l'économie. Comment voir tous ces grands problèmes économiques dont on débat tous les jours dans une perspective que la Bible elle-même enseigne. Voilà les deux choses donc, dont je voulais préciser les modalités. Les trois questions qui m'ont été posées sur les livres prophétiques sont les suivantes. Je les lis telles qu'elles ont été posées et puis je les reprendrai après cela. Au-delà de l'annonce du Messie, quelle valeur normative ont les textes des prophètes pour notre vie de tous les jours? Entre parenthèses, Malachie ou confère Malachie. Voilà la première question, valeur normative, ça veut dire valeur de commandement, de direction, quelle autorité pour nous dire comment vivre. Ça c'est la première question. Deuxième question, c'est la question amillénariste à la lumière des textes prophétiques. Et troisième question, la question de Satan dans les textes prophétiques. Ésaïe 14 et Ézéchiel, Ésaïe chapitre 14, deuxième partie, et Ézéchiel chapitre 28. Ce sont là les trois questions que j'ai reçues, donc j'ai préparé une réponse. Ensuite, donc, vous pourrez oralement poser vos propres questions. Valeur normative des prophètes pour nous. Et on peut penser spécialement au livre de Malachie. Premier point à rappeler, me semble-t-il, c'est que le Dieu qui a parlé par les prophètes de l'Ancien Testament, depuis Abdias jusqu'à Malachie, c'est notre Dieu. Pas le moindre doute à laisser s'infiltrer à cet égard. Le Dieu et Père de Jésus-Christ, celui qu'il appelle Abba, Père, nous entraînant à le faire à sa suite, c'est le Dieu de la loi et des prophètes. Et Jésus le montre de manière extrêmement explicite et fréquente. Jésus sans cesse cite ces textes. Et la Bible des premiers chrétiens, ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament, ils en avaient juste des fragments, c'était l'Ancien Testament. Et dans leur culte, ils lisaient un passage de l'Ancien Testament. Donc, ne nous laissons jamais piéger, c'est un piège mortel, par ce qu'on appelle le marcionisme. Au deuxième siècle, il y a eu un grand hérétique qui a fait beaucoup de dégâts, qui s'appelait Marcion, et qui opposait le Dieu du Nouveau Testament au Dieu de l'Ancien. Alors ça l'obligeait à charcuter le Nouveau Testament, ce qu'il a fait. Hein. Selon son idée, il ne gardait que la plupart des épîtres de Paul, mais pas encore tout, seulement l'évangile de Luc, et encore il en coupait des morceaux, puis tout le reste, il expulsait. Non, le marcionisme est une tentation désastreuse. Et donc nous devons être là nettement avertis. Mais qu'est-ce que ça implique pour la normativité, la valeur normative des écrits des prophètes pour nous? Je crois que cela veut dire que quand il s'agit de vérité, la vérité subsista toujours dans la pensée biblique, la vérité ne change pas d'une époque à l'autre, quand il s'agit de vérité, en particulier de vérité sur Dieu, sur ce qu'il est, sur ce qu'il aime. Alors, ce que disent les prophètes doit être reçu avec une entière confiance par nous. C'est l'écriture produite par le souffle de Dieu qui est utile pour corriger et pour former parfaitement l'homme et la femme de Dieu. Alors bien sûr, ça peut être partiel, ça peut être imprécis, parce qu'il y a un grand progrès de la révélation tout au long de la Bible. Tout est vrai, mais tout n'est pas dit en même temps. Donc c'est quelque chose qui peut être à compléter, ce que nous avons dans la lecture des prophètes. Mais n'en doutons pas, c'est vrai. Ce qui est présenté comme vérité vaut pour nous. Et cela est écrit pour notre instruction. Mais lorsqu'il ne s'agit plus de ce qui est vrai, mais de ce qui est à faire, alors là, les choses changent quelque peu, pas entièrement. Parce que ce qui est vrai toujours, mais ce qui est à faire peut changer selon la situation. Dans une situation, c'est ça ce qu'il faut faire, dans une autre situation, ce n'est plus la même chose. Et il y a diversité de situations, voulues par Dieu même dans son plan. La manière d'agir de Dieu lui-même change. Bien sûr, il ne se renie pas lui-même, mais il ne procède pas non plus tout à fait de la même manière. Et puis ce qu'il demande à ses serviteurs n'est pas tout à fait identique non plus. Bien sûr, les grands principes, pourrait-on dire, demeurent les mêmes, parce que Dieu demeure lui-même fidèle à son être, à tout son caractère. Mais selon les circonstances, il peut demander telle chose à tel homme, telle chose à tel autre, et puis il peut édicter des règles qui valent pour une période donnée. Alors dans le cas des règles posées par Dieu, je crois qu'il faut dire que l'Ancien Testament a été associé à un ensemble de dispositions que le Nouveau Testament appelle parfois la loi des ordonnances et des prescriptions, qui n'était que pour un temps, qui était établi en vue de la venue de Jésus-Christ pour la préparer, mais qui n'était pas destiné à durer toujours et avoir une valeur normative pour toutes les générations après même la venue de Jésus-Christ. Il y a des prescriptions, des lois établies par Dieu dans l'Ancien Testament qui sont abolies par la venue de Jésus-Christ. Elles ne sont pas abolies comme si elles avaient été simplement mauvaises, non. Et dans ce sens, elles ne sont pas simplement abolies, elles sont accomplies aussi. Leur vrai sens s'épanouit en Jésus-Christ. Et il y a comme une contrepartie dans le changement de plan, de l'accomplissement qui est en Jésus-Christ. Mais il reste que dans leur lettre, dans leur forme impérative, elles ne s'appliquent plus aux chrétiens. Alors c'est le cas par exemple pour les sacrifices. L'Épître aux Hébreux nous le dit avec beaucoup de force. Il n'est plus question de multiplier les sacrifices pour le péché et pour la culpabilité comme avant la venue de Jésus-Christ, parce que le sacrifice de Jésus-Christ étant l'accomplissement de tout ce que ces sacrifices annonçaient, met fin à ces sacrifices, les abolit d'un seul coup. Dans le cas du livre de Malachie, je pense qu'on peut dire que le précepte de la dîme, ou la loi de la dîme, qui était une des lois établies par Moïse pour l'Ancien Testament, peut être une illustration. Nous avons parlé de ce sujet à d'autres reprises, dans des réunions d'église. Il semble bien que le Nouveau Testament ne considère pas que la loi de la dîme, comme loi, continue d'être imposée aux chrétiens. C'est une loi de l'Ancien Testament. Alors sa signification continue de valoir, et l'idée que le chrétien met à part des éléments de son revenu pour les offrir en symbole du don de toute sa personne à Dieu pour son service sur la terre, ça bien sûr c'est le principe qui demeure. Mais la loi de la dîme, comme loi que c'est peut-être 10%, etc., ça, ce n'est plus du tout mentionné dans le Nouveau Testament. Nulle part dans le Nouveau Testament, il n'est dit que les chrétiens soient encore assujettis à cette loi. La même chose pour le sabbat, mais là, le livre de Malachie n'en parle pas spécialement, c'est pour ça que j'ai choisi plutôt de parler de la dîme. dans le cas de la dîme, je crois que nous pouvons transposer ce qui est dit par Malachie. En ce qui concerne la question du mariage que traite Malachie, vous le rappelez, nous en avons parlé la fois dernière, je crois qu'il est clair que Dieu indique déjà sa préférence constante en disant « je hais le divorce et la répudiation » dans le livre de Malachie, mais que cela n'est pas encore équivalent aux règles que Jésus a posées pour ses disciples. C'est une expression dans le cadre de l'Ancien Testament de la préférence divine, mais Malachie ne dit pas encore, comme Jésus, que celui qui répudie sa femme l'expose à devenir adultère et celui qui l'épouse devient adultère, etc., sauf en cas de fornication. C'est pas équivalent encore. Voyez. Et ce qui est normatif pour nous directement, c'est ce que Jésus a dit. Voilà donc comment, je pense, nous pouvons répondre à la première question sur la valeur normative des textes prophétiques. Deuxième grande question, celle de l'amillénarisme et des prophéties. En fait, moi je dirais aussi bien que c'est la question millénariste plutôt que la question amillénariste, bien sûr c'est la même. De quoi est-il question? Le mot amillénarisme et le mot millénarisme viennent du mot millénium. À partir de ce mot millénium, qui signifie période de 1000 ans, il y a différentes doctrines qui ont droit de citer parmi les évangéliques, et dans notre Église même, et certaines qui affirment qu'il y aura un millénium sont appelées millénarisme, et certaines qui pensent qu'il n'y en aura pas sont appelées amillénarisme. Le A est le A privatif. Certains chrétiens évangéliques croient qu'il y aura un millénium, d'autres disent la Bible n'enseigne pas vraiment cela si on comprend bien les textes. Et alors ils sont amillénaristes. Alors comment définir le millénium? Parce que l'essentiel n'est pas du tout cette longueur de 1000 ans. Comment définir le millénium? Le millénium, c'est un règne externe sur la terre. Pas le règne invisible dans les cœurs, mais un règne externe, extérieur, de Jésus-Christ sur la terre, avant le jugement dernier. C'est à mon avis la définition la plus brève de ce qu'on peut appeler millénium en doctrine. Alors les millénaristes disent, il y aura un tel règne de Jésus-Christ, visiblement reconnu, obéi sur toute la terre, avant le jugement dernier, et qui durera une longue période, 1000 ans littéralement ou pas, mais peu importe, une longue période. Et les amillénaristes disent, non, nous n'avons pas à attendre cela, ce n'est pas vraiment prophétisé. Alors parmi les millénaristes, ceux qui disent, il y aura, vous en avez de diverses sortes. Les plus nombreux de très loin, ce sont les pré-millénaristes. Le préfixe pré indique que pour eux, Jésus revient avant ce règne. Alors on les appelle pré-millénaristes. Il y en a aussi certains qu'on appelle post. Pour eux, Jésus ne revient qu'après ce règne. Alors vous allez dire, mais comment? Mais si c'est un règne visible extérieur de Jésus-Christ sur la terre, comment est-ce qu'il peut ne revenir qu'après? Oui, pour eux, Jésus règne du haut des cieux, mais son règne est déjà établi sur la terre de manière visible. Tous les hommes le reconnaissent. C'est l'évangile qui est reconnu partout. Donc c'est un règne externe, visible aussi. Ceux-là, on les appelle les post-millénaristes, mais ils sont peu nombreux dans nos églises évangéliques en France à l'heure actuelle. Alors, donc vous avez les millénaristes, généralement pré-millénaristes, et puis vous avez les amillénaristes. Disons les choses très, très simplement, la tradition ancienne de notre Église était pré-millénariste. Lors de sa fondation, et ma grand-mère, Madame Arthur Blocher, était assez fortement pré-millénariste. Et puis, au cours de mes études, je suis personnellement devenu amillénariste. J'ai été convaincu par les arguments amillénaristes, Mon père a étudié la question à ce moment-là, du fait que j'avais changé, et est devenu pratiquement amillénariste avec toute petite hésitation, mais ça a été aussi son choix. Et par la suite, les pasteurs ont été soit une position indécise, soit plutôt amillénaristes. En tout cas, M. Jacques Dubois et M. Joël Lillion ont été très, très nettement amillénaristes. Je ne saurais en dire autant de M. Adjé, je ne pense pas qu'il avait une position si arrêtée, et pour M. Somerville non plus, je ne sais pas exactement. C'est pour vous dire que dans notre Église, donc, les deux opinions ont tout à fait droit de cité. Alors, par rapport aux prophéties, comment est-ce que les choses se présentent? L'appui principal aux yeux des millénaristes, et des prémillénaristes en particulier, de la doctrine, se trouve dans le passage qui mentionne un règne de 1000 ans, à savoir le 20e chapitre de l'Apocalypse. L'Apocalypse de Jean, chapitre 20. C'est le lieu fondateur pour la doctrine du millénium. Alors nous n'allons pas l'étudier aujourd'hui, puisque nous parlons des prophéties de l'Ancien Testament. Je ne veux pas déborder, mais je le signale. Et puis alors, les millénaristes ajoutent un nombre variable selon les docteurs, les enseignants de ce point de vue, de textes prophétiques de l'Ancien Testament. Et il y en a deux qui me semblent être particulièrement mis en vedette. Deux passages, le deuxième étant très long, nous n'allons pas nous y arrêter autant, puis nous en avons déjà un peu parlé quand même. Deux passages qui sont considérés comme les plus forts en faveur de la thèse millénariste, prémillénariste, dans l'Ancien Testament, dans les prophéties. C'est Ésaïe 65, qui est le texte le plus fort. Je le lis rapidement. C'est à partir du verset 16 qu'on peut lire. Il s'agit de promesses de Dieu, de visions d'avenir que déploie le prophète Ésaïe. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui prêtera serment dans le pays prêtera serment par le Dieu de fidélité. Car les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début, ils ne remonteront plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt, soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus là de nourrissons vivant quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent ses jours. Car le plus jeune mourra 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vergers, ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas pour la nourriture d'un autre. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne peineront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour l'épouvante, car ils formeront la descendance des bénis de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Et alors, avant qu'ils m'invoquent, moi je répondrai. Ils parleront encore que moi j'exaucerai. Le loup et l'agneau auront un même pâturage, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et puis l'autre passage, c'est la grande section finale du prophète Ézéchiel, les chapitres 40 à 48, où l'on voit le temple reconstruit avec toutes les mesures qui en sont données, le service qui y reprend, un partage du pays, un prince qui règne pacifiquement sur tout le territoire. C'est l'autre passage qui est, je pense, le plus souvent invoqué avec celui d'Ésaïe 65 en faveur de la doctrine du millénium. Pourquoi ces passages sont-ils sollicités? Parce qu'ils semblent correspondre aux yeux donc des millénaristes à ce qu'ils attendent sous le nom de millénium. Ce qui est annoncé est un état de choses fort réjouissant, de paix et de prospérité de la cité de Dieu. La connaissance de l'Éternel y est universellement diffusée dans un monde renouvelé, mais subsiste quand même la mort et le péché, d'après le verset 20 d'Ésaïe 65. le plus jeune mourra à 100 ans et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc, nous dit-on, ce ne peut pas être l'état final, après le jugement dernier, où il n'y aura plus de péché ni de mort, donc ce doit se situer avant. Ce doit être un âge particulier qui soit caractérisé à la fois par l'accomplissement de beaucoup de promesses et un grand bonheur, et pourtant, pas encore l'état final. De même, dans les chapitres d'Ézéchiel que j'ai cités, c'est une vision d'harmonie, mais il y a encore des sacrifices pour le péché qui sont offerts, d'après le chapitre 44, versets 29, 45, 17 et 22. Voilà les raisons principales qui font que ces passages sont cités à l'appui de l'idée du millénium. Mais à mon avis, de sérieuses difficultés surgissent si on adopte cette lecture donc millénariste qui font des brèches à la cohérence interne et externe. La cohérence interne des passages eux-mêmes et la cohérence externe entre ces passages et le reste de la Bible. Je remarque les points suivants, j'essaye d'aller vite. Un premier point, nulle part dans ces passages, il n'est suggéré que ce soit un stade avant-dernier. Ceux qui lisent ces textes comme se rapportant au millénium supposent qu'il ne s'agit pas de la fin de tout le plan de Dieu, puisque cette fin, c'est l'état final. Et justement, ce n'est pas l'état final que nous aurions, mais quelque chose qui viendrait avant le jugement dernier, qui serait encore donc une étape provisoire, et non pas d'achèvement. Or, lorsqu'on lit ces passages, on a l'impression que c'est le terme, c'est à ça que Dieu va aboutir. Donc là, c'est une difficulté. Deuxième difficulté, dans Ésaïe 65 que nous venons de lire, donc qui est tout spécialement présent à votre esprit, l'accent majeur, c'est qu'il n'y aura plus aucune peine, aucun cri, aucun pleur, aucune frustration, que ce sera pure joie, pure allégresse, tout le temps, qu'il ne se fera aucun tort, aucun dommage. Alors si on dit qu'en même temps péché est mort, c'est quand même une difficulté de nouveau. Ou bien c'est vraiment plénitude dans la joie, ou bien on insiste sur le fait qu'il y a encore des marques du vieux monde mauvais. Donc ça c'est une donnée qui peut être prise en compte. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a une difficulté spéciale. Au chapitre 45, verset 22, verset que j'ai cité il y a quelques instants, il est dit que le prince, qui règne sur cet Israël de la vision des chapitres 40 à 48, offre des sacrifices pour le péché, pour lui-même et pour le peuple. Alors, si on a une lecture de type littéral, qui est ce prince? Qui est le prince qui règne pendant le millénium, d'après tous les millénaristes? C'est Jésus-Christ. Et il n'est pas du tout sous-entendu dans ces chapitres 40 à 48 que ce prince ne serait qu'un sous-fifre, en quelque sorte, un vice-prince. Il apparaît comme le prince. Alors comment admettre que dans le millénium, Jésus-Christ offre des sacrifices pour son péché? C'est vraiment une grosse difficulté dans la lecture millénariste de ce verset. Autre difficulté, dans l'un et l'autre passage, il y a une transformation de la nature qui est extraordinaire, qui semble suspendre toutes les lois de la présente création. Nous avons en Ésaïe 65, là encore j'adopte le type de lecture littérale qui est commune chez les millénaristes, le bœuf qui devient herbivore, là c'est pas si exceptionnel, le lion qui devient herbivore comme le bœuf, le loup et l'agneau qui pestent ensemble. C'est vraiment une transformation très radicale de la nature. Et quand on pense à ce que précisément les savants de notre temps, les écologistes, ont mis en valeur, que tout se tient, que le cycle alimentaire est merveilleusement réglé et que si vous changez une chose, alors tout est bouleversé. On ne peut pas dire c'est juste là quelques instincts d'agressivité animale conduisant à une alimentation carnée pour quelques espèces, et puis ça ne change rien d'autre. En fait, vous voyez, c'est vraiment une transformation très radicale. Dans le livre d'Ézéchiel, et il y a aussi des transformations tout à fait extraordinaires au chapitre 47. Là, nous avons un fleuve qui naît comme un petit ruisselet du temple et qui devient apparemment sans aucun affluent. D'ailleurs, on ne voit pas en terre de Palestine, en terre d'Israël, comment il pourrait y avoir de l'eau qui devient un fleuve immense, comme ça. Ah, ça paraît ne pas correspondre aux lois de l'hydrographie de cette création. Alors, si on interprète cela comme relatif à la nouvelle terre, nouvelle création, alors d'accord, c'est une nouvelle création. Ou si on interprète cela comme un langage qui ne doit pas être pris littéralement, pas de problème. Mais si on fait comme les millénaristes, qu'on dit c'est cette terre, c'est pas la nouvelle terre, c'est cette terre, parce qu'il faut que ce soit cette terre qui soit le théâtre du règne de Jésus, c'est souvent l'argument des prémillénaristes. C'est cette terre et pas la nouvelle terre, c'est avant la nouvelle création. Et puis il faut prendre ça littéralement, alors c'est quand même une difficulté que cette transformation que ces chapitres laissent attendre de la nature. Et puis dernière et à mes yeux principale difficulté, ce qui à mes yeux, je vous le dis franchement, est décisif. Si vous prenez les échos, les citations ou allusions dans le Nouveau Testament de ces passages, alors, à mon avis, ça ne colle pas du tout avec la lecture millénariste. Comment commence le grand passage d'Ésaïe 65 ? Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ces versets sont repris dans l'Apocalypse, mais pas Apocalypse 20, pas le passage sur des mille ans, mais Apocalypse 21, après le jugement dernier. Et là, les millénaristes, en général, sont bien d'accord pour dire, eh oui, ça c'est la nouvelle terre, précisément. Et d'ailleurs, c'est nouveau cieux, nouvelle terre, le mot vient d'ici, quoi. Alors, je trouve que c'est une difficulté considérable pour la lecture millénariste que de dire, ce texte parle de l'ancienne terre avant le jugement dernier, alors que les mots mêmes qui s'y trouvent ont été repris par l'Apocalypse pour la nouvelle terre, et que l'expression même de nouvelle terre en vient au chapitre 21 et pas au chapitre 20. Alors, ça c'est une difficulté, à mon avis, considérable, qui se prolonge dans d'autres éléments de ce passage, qui sont aussi repris dans le Nouveau Testament, et la même chose pour Ézéchiel 40 à 48, qui est cité, combien est-ce que j'ai compté de fois ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, enfin dans 8 des versets d'Apocalypse 21 et 22. Ézéchiel 40 à 48 n'est pas cité dans Apocalypse 20, mais est cité ou repris, des fragments de mots, des fragments de phrases sont repris dans la description de la nouvelle Jérusalem, sur la nouvelle terre, dans Apocalypse 21 et 22. Alors, pour moi, le choix se présente, mais je parle en un millénariste, hein, je veux pas que quelqu'un se sente exclu, etc., parce que c'est ma conviction. Mais, pour moi, le choix se présente de la façon suivante. Ou bien je suis l'idée qui, à moi occidental, habitué à des textes de type littéral, l'idée qui me vient quand je lis ces passages, il me semble que c'est ce que font les millénaristes, ou bien je lis selon ce que le Nouveau Testament m'enseigne de lire. Qui va me guider dans l'interprétation ? Mon sentiment, quand je lis ces passages, et que je me dis, non, ça ne peut pas être la nouvelle terre, ou ça ne peut pas être spirituel, est-ce que c'est ce sentiment qui va me guider, ou bien est-ce que c'est la manière dont le Nouveau Testament me donne des indices pour interpréter ? Moi, je choisis clairement la deuxième option. Hein. Mais bon, je parle, bien sûr, en un millénariste. Et alors, ce qui est lié, c'est qu'il me semble possible de lire ces passages, au moins possible, sans y voir le millénium. J'étais tout heureux dans mes jours d'étudiant de lire dans le commentaire de Joseph Addison Alexander d'Ésaïe, un vieux commentaire, c'était un homme énorme, il connaissait 20 langues sémitiques et apparentées, c'était vraiment... Et dans son commentaire d'Ésaïe 65, vraiment, il m'a éclairé. Quelle est la fonction de ces passages sur celui qui meurt à 100 ans, qui est tout jeune, sur le pécheur âgé de 100 ans, considéré comme maudit? Est-ce que c'est vraiment de nous dire, ah, il y aura dans cette nouvelle Jérusalem des pécheurs qui mourront à 100 ans? Je crois que si on lit comme ça, vraiment, on n'est pas du tout dans l'esprit du passage, dans le mouvement de ce texte. À l'évidence, il s'agit pour le prophète de faire sentir à quel point ce sera merveilleux, et c'est impossible à dire. Ça chamboule tellement toutes nos façons d'imaginer. Aujourd'hui, mais mourir à 100 ans, c'est vraiment atteindre le grand âge. On fait des cérémonies et tout et tout. Et dans le cas de l'Ancien Testament en particulier, c'était signe d'une bénédiction de Dieu. Remarquable, le juste qui atteignait 100 ans sous la bénédiction de Dieu. Et le prophète nous dit, mais ce sera totalement changé. Là, mais mourir à 100 ans, ce serait mourir comme un genou et comme frappé d'une malédiction. C'est pour dire, ce sera radicalement différent. Toutes les façons de penser et d'apprécier les choses qui nous sont courantes aujourd'hui se sont rendues caduques par la merveille de ce que Dieu prépare. En fait, même grammaticalement, je peux vous signaler que en hébreu, c'est comme ça en hébreu, les verbes qui sont au futur pourraient être traduits, c'est vrai là, mais c'est vrai pour ailleurs aussi, aussi au conditionnel, parce qu'il n'y a pas de mode conditionnel distinct du mode indicatif. C'est le même inaccompli hébreu qui sert pour le futur, le présent qui continue, même l'imparfait, pour le subjonctif et pour le conditionnel. Alors, on a le droit tout à fait d'envisager que ce soit ce discours de type hypothétique que je vous proposais, mais dans cette nouvelle Jérusalem, mourir à 100 ans, ce serait mourir jeune. Vous voyez, il s'agit de faire comprendre que ce sera tellement beau, tellement autre que toutes ces choses passées qui ne reviendront plus à la mémoire. Donc il me semble qu'il est possible de lire comme ça. Et c'est un peu plus compliqué dans Ézéchiel 40 à 48. Nous avons dit un mot de l'interprétation de ces passages, je n'y entre pas. Mais je conclue sur cette question en disant que pour le reste des prophéties, plus globalement, de manière générale, les millénaristes ont tendance à interpréter plus littéralement que les amillénaristes. Les amillénaristes disent « le langage est un instrument souple et varié, et surtout en Orient, on utilise beaucoup d'images, beaucoup de symboles. » Mais les prémillénaristes disent « non, ça c'est trop facile, c'est arbitraire. » Ça c'est la grande divergence sur la manière d'interpréter le langage dans les diverses prophéties. Et puis la deuxième opposition de tendance, c'est que les millénaristes ont tendance à fragmenter l'accomplissement. En disant, oui, il y a une prophétie, mais là, elle commence à s'accomplir là. Oui, d'accord, dans le Nouveau Testament, il dit souvent cela, d'accord, parce que le Nouveau Testament a un verset qui indique que c'est accompli. Mais ce n'est qu'une partie de l'accomplissement. En fait, il faut encore que ça se produise, etc. Et là, les amillénaristes disent, non, ça c'est arbitraire. Finalement, le Nouveau Testament dit ça c'est accompli, mais parce que les prémillénaristes ont leur idée, ils prétendent que ce n'est pas encore tout accompli, qu'il doit encore arriver quelque chose d'autre. Mais ça, le Nouveau Testament ne le dit pas. Vous voyez, ce sont les deux grands débats. Alors là, je ne fais pas d'autres commentaires, mais ça vous permet de vous repérer lorsque vous lisez les textes des uns et des autres. Voilà donc sur cette deuxième question. Comme elle était grande et importante, j'ai pris un peu de temps. Je réponds de manière plus brève sur la troisième. La question de Satan dans les textes prophétiques, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Nous rappeler d'abord que la révélation sur l'adversaire, c'est ce que veut dire le mot Satan, l'adversaire en justice surtout, est une révélation progressive et qui reste d'ailleurs partielle. Tout ne nous est pas révélé sur Satan. Ce n'est pas à nous de le savoir. Alors, beaucoup de chrétiens évangéliques croient qu'il est question de lui dans deux passages, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, où il y a un personnage qui est campé d'abord dans la splendeur de sa réussite, dans son arrogance et son orgueil, et qui est frappé par un jugement qui l'abat, qui le fait tomber. Beaucoup pensent qu'il s'agit de la chute originelle de Satan, lorsqu'il était une créature céleste éclatante, mais qu'il s'est rébellé contre Dieu et qu'il est devenu l'adversaire, le diable. Je crois à cette chute. Je crois qu'il faut que nous admettions qu'elle a eu lieu. Mais est-ce que c'est pas ça, j'en parle? Là, je ne le crois pas. Alors, je vous dis très brièvement les raisons. Je les ai développées un peu plus à la fois dans mon livre Révélation des origines, surtout pour Ézéchiel, et dans mon cours publié, donc La doctrine du péché et de la rédemption. Alors, vous pouvez voir plus de détails. D'abord, Satan n'est pas nommé dans ces deux passages. Nulle part il n'est question de Satan, du diable, dans ces textes. Ni Ésaïe 14, ni Ézéchiel 28. Et la cible de ces deux discours est explicitement donnée. Le passage d'Ésaïe 14 est dirigé contre le roi de Babylone. C'est lui qui est interpellé. Et Ézéchiel 28 contre le prince de Tyr. Alors, s'il y a quelque chose qui concerne Satan, c'est en tout cas par allusion, et c'est pas déclaré. Et il n'y a aucun passage qui cite Ésaïe 14 ou Ézéchiel 28 ailleurs dans la Bible qui l'attribue à Satan. Il n'y a aucun texte qui le fasse. Donc, ça c'est le premier élément qui me rend extrêmement sceptique. À mon avis, j'ai entendu des spécialistes évangéliques être de cet avis. Rien n'exige dans le langage de ces deux passages qu'on voit quelqu'un d'autre que le roi de Babylone ou que le prince de Tyr. Étant donné l'usage de l'hyperbole, du langage fleuri, éclatant, en Orient, comme je l'ai dit, on peut très bien lire ces passages et les interpréter sans outrepasser ce qui est procédure normale en interprétation, en disant c'est le roi de Babylone, c'est le prince de Tyr, et puis c'est tout. On peut faire remarquer, en outre, que dans les passages en cause, leur péché est un péché qui est un péché d'homme. C'est spécialement souligné. Toi qui es homme, tu te fais Dieu, dit le début du chapitre 28, et le répète. Et dans Ésaïe 14, où est l'homme qui faisait trembler les royaumes, le mot homme est employé. C'est pour un péché humain que les gens qui sont la cible directe sont spécialement dénoncés, et le péché et le châtiment qui leur est annoncé est aussi un châtiment d'homme. C'est le châtiment de la mort, comme dans Genèse 3. Tu verras si tu seras homme et non et si tu seras Dieu et non homme sous la main de tes meurtriers, dit Ézéchiel 28 dans la première partie du chapitre qu'il faut toujours lire avec la deuxième. Et de même dans Ésaïe 14, il arrive au séjour des morts, parmi tous les grands rois et qui sont morts, c'est eux qui l'accueillent, il est question des vers qui mangent son cadavre, de son corps qui n'aura pas eu une sépulture normale. Alors, penser que tout cela, en fait, parle de Satan, pour lequel tout cela ne pourrait pas jouer, ça me paraît une difficulté sérieuse. Alors, est-ce qu'il n'y a rien d'autre que l'allusion à ces deux hommes, ou disons que c'est plus qu'une allusion, là, que l'interpellation de ces deux hommes? Pour Ésaïe 14, mon sentiment, c'est qu'il n'y a rien d'autre. C'est comme ça que je conclus. C'est le roi de Babylone, vu sous des couleurs de poésie polémique, d'ailleurs. Mais il n'est pas nécessaire de supposer qu'il y a une allusion au-delà de lui. Dans le cas d'Ézéchiel, avec une petite hésitation, mais quand même, je pense qu'il y a bien une allusion qui est faite à un personnage derrière lui auquel il est assimilé, présenté comme ressemblant. Mais ce n'est pas Satan, dont la chute d'ailleurs n'était pas connue dans le peuple, une allusion n'aurait pas été comprise à cette époque. Mais c'est Adam qui, le premier en quelque sorte, s'est élevé dans l'orgueil et a été frappé du châtiment de mort. Le prince de Tyr, en quelque sorte, imite dans sa conduite Adam, le premier roi de la terre, et il est puni comme Adam a été puni. C'est, je crois, l'allusion qu'il y a. C'est pour ça qu'il y a une référence à Éden. Voilà comment, globalement, j'interprète ces deux passages. Pour le reste, Satan n'est nommé qu'une seule fois dans les livres prophétiques. Nommé, c'est en Zacharie 3, un passage que nous avons considéré il y a assez peu de temps, dans sa fonction d'accusateur. Le Satan se tenait à la droite de Dieu pour sataner. C'est le verbe Satan. Pour sataner, accuser. Josué, le grand prêtre. C'est le seul endroit où le nom Satan dans les livres prophétiques est utilisé. À mon avis, on pourrait le voir aussi derrière le Léviathan d'Ésaïe 27, verset 1er. Il est annoncé que Dieu châtiera de sa grande épée le monstre qui est dans la mer, le serpent fuyard et tortueux, Léviathan. Alors je crois qu'il s'agit là du symbole de la force spirituelle qui anime les nations contre Dieu. Et l'annonce est faite que Dieu triomphera de lui. Alors nous savons que, en fait, cette force spirituelle qui anime les nations dans leur révolte, c'est Satan. Mais c'est après coup, avec l'aide de l'Apocalypse, qui dit le grand dragon, Satan. Le grand dragon, à mon avis, c'est le Léviathan. L'expression est une référence à Ésaïe 27. Donc là, je serais prêt à y voir aussi un passage sur Satan. Voilà, donc, il reste encore quand même du temps. Je suis prêt maintenant à essayer de répondre aux questions que vous avez déjà formées dans votre esprit ou qui vous viennent. Monsieur Rerich. Oui, monsieur René Pache était prémillénariste, en effet. Son enseignement pour sa génération a eu beaucoup d'influence en France. Une partie des raisons pourquoi, il y a 40 ans, il y avait certainement beaucoup de prémillénaristes dans les milieux évangéliques francophones. Monsieur Berger.
Il y a quelques années, il y a eu en France un Américain qui a voulu apporter la querelle de ce millénarisme. Mm-hmm. Il était prémillénariste. Et il estimait que tous ceux qui étaient amillénaristes étaient des gens qui tordaient la parole de Dieu et enfin, c'était terrible. Et moi j'étais très troublé par cet affaire. Je me demandais où était la vérité. Et un jour j'ai voyagé avec M. Jules Marcel-Nicole et je lui ai dit mon trouble. Et il m'a dit: de toute façon, supposons que le millénium existe, je suis du bon côté.
Monsieur Jules-Marcel Nicole est prémillénariste.
Supposons que le millénium n'existe pas, je suis aussi du bon côté. Donc, c'est une chose secondaire. Et donc, c'est une querelle de...
Si, si, vous êtes théologien, monsieur Berger. Tous les chrétiens sont théologiens.
Alors, j'estime que la solution du problème se trouve dans l'autre. Alors, je suis libéré de préminéralisme et aminéralisme et j'attends que les choses arrivent.
Voilà, monsieur Berger, donc je dis pour l'enregistrement de la cassette, monsieur Berger a souligné que la question du millénium était une question secondaire et que nous pouvons attendre si nous ne sommes pas persuadés d'un côté ou de l'autre, et en tout cas, il a cité monsieur Nicole dans le sens d'une tolérance à l'égard de l'autre opinion. Oui, monsieur Weinberg. Alors, M. Weyenberg donc interroge sur l'interprétation du chapitre 20 de l'Apocalypse. Il pose la question du déliment de Satan, si c'est déjà la Nouvelle Jérusalem. Alors, je ne veux pas entrer dans le débat sur l'interprétation de l'Apocalypse, puisque ce n'est pas le sujet aujourd'hui, et vraiment là, ça me prendrait tout le reste du temps. Je pense que nous pourrions y revenir dans les mois qui viennent. Mais je signale que pour les non-millénaristes, il ne s'agit pas de mettre la Nouvelle Terre en Apocalypse 20. Donc le déliment de Satan intervient avant le chapitre 21, mais l'interprétation est différente, n'implique plus l'idée d'un règne extérieur visible de Jésus-Christ sur la terre avant le jugement dernier. Mais l'idée que j'ai, je suis prêt à accueillir toute autre pensée de votre part, c'est au mois de février de reprendre, c'est un peu le prolongement de ces cours sur les prophètes, ce que j'avais fait pour le groupe plus restreint qui se réunissait en bas. Ça a été demandé que je complète ce que j'avais dit à l'époque et puis sans doute que je l'adapte au groupe que nous formons maintenant. Et puis ensuite, au mois de mars, il y aura un institut biblique commun sur l'histoire de notre Église. Mais après, je pense que nous pourrions prendre la doctrine des fins dernières, c'est-à-dire la doctrine des événements précisément, qui marqueront le retour de Jésus-Christ, la fin du monde, est-ce qu'il y aura un millénium, le châtiment éternel, et puis aussi ce qui concerne la mort de l'individu, ce qui se passe après la mort. Donc, ça pourrait nous donner, je pense, presque une dizaine de sujets pour toute une série qui pourrait faire assez bien suite à la série d'études sur les prophètes. Donc, nous reviendrions sur les questions qui viennent d'être soulevées. Et l'interprétation du 20e chapitre de l'Apocalypse. Autre question sur les prophètes de l'Ancien Testament. Oui, Christian.
Est-ce que tu peux nous expliquer la position des prophètes dans le cadre de la société juive de l'époque, sur un plan juridique et légal, s'il y avait, et avec un éclairage moderne, s'il y a
quelle était la situation juridique, légale, peut-être sociale des prophètes dans la société israélite de leur époque? C'est une question très intéressante et je ne pense pas qu'il y ait unanimité à ce propos, mais quand même. Le premier point qu'on peut mettre en valeur, je crois, c'est que les prophètes, contrairement aux titulaires des deux autres offices, n'ont pas appartenu à une institution stable, établi par Dieu, qui faisait d'eux en quelque sorte des prophètes, parce qu'ils étaient dans l'institution. Pour les prêtres, on était de la famille d'Aaron, on était dans l'institution, on devenait prêtre. Pour les rois, on était de la famille de David, on devenait roi, etc. C'était des institutions dont la définition était nette et la continuité externe. Pour les prophètes, Dieu les suscitait ici ou là, il prenait un prophète de derrière ses bœufs, comme pour Amos. Et donc, il y avait une sorte de liberté dans l'appel et l'investiture prophétique qui est intéressante à noter. Et grosso modo, on peut dire que les grandes institutions de la royauté et du sacerdoce ont déçu, que leurs titulaires n'ont pas été à la hauteur, d'où la destruction et du trône et du temple lors de l'exil, et ce sont les prophètes qui ont tenu plus fidèlement la bannière de la vérité du Seigneur. Cela dit, il faut nuancer. Ayant dit ça, il faut nuancer. Le premier point, c'est qu'il y a quand même eu des prophètes assez étroitement associés à ces deux autres offices que j'ai mentionnés. À partir de David, il y a des prophètes comme officiels qui conseillent le roi. Quand le roi est pieux, il fait appel aux prophètes. Alors Nathan et Gad étaient en quelque sorte des prophètes de la cour du roi, qui jouissaient un peu d'un rôle d'éminence, pas grise mais lumineuse, dans la cour du roi. Là, il se rapprochait des conseillers royaux. Et Ésaïe semble avoir un peu joué aussi le rôle de conseiller royal peut-être archiviste en même temps que prophète, vous voyez. Bon, donc là, il y avait une continuité avec l'office royal. Et de même, certains prophètes prenaient part sans doute au culte. Certains prophètes étaient prêtres en même temps, ou étaient de race sacerdotale, et donc, il ne faut pas non plus opposer de manière trop simple. Ça, c'est une première indication que nous pouvons, je crois, donner. Deuxième indication, les prophètes dont nous avons recueilli les écrits étaient en concurrence avec d'autres. Il y avait quand même pas mal d'autres prétendus prophètes, sans doute plus nombreux à la plupart des époques que ceux qui ont pu être reconnus par l'accomplissement de leurs oracles comme d'authentiques envoyés de Dieu. Alors il y avait une fonction socialement reconnue que les faux prophètes remplissaient en même temps que les vrais, oui, mais eux frauduleusement. Alors à quoi correspondait-il dans notre société? Je pense que c'est un peu un assemblage du prédicateur, si vous voulez, Monsieur Jean-Charles, du réformateur social, si vous voulez, l'abbé Pierre, et du journaliste, si vous voulez, PPDA, ou je ne sais pas. C'était des commentateurs de l'actualité, ou Alain Duhamel, qui interprétaient les événements, prétendaient en donner le sens, alors mais ils le faisaient au nom de Dieu, en interpellant le peuple. C'était dans l'ordre religieux qu'ils s'inscrivaient, mais ça tenait beaucoup à la vie politique, et à la vie sociale. Donc du point de vue de leur situation dans la société israélite, vous aviez un certain nombre de gens, sans doute bons orateurs, il y a aussi cet aspect, ils ont donné, c'est aussi l'équivalent des grands écrivains, grands orateurs et grands écrivains de leur époque, qui donnaient le sens des événements, qui les commentaient, mais au nom de Dieu. Voilà donc quelques indications que je crois possible de donner. Y a-t-il encore une autre question ? C'est pas encore tout à fait l'heure échue, mais... On pourrait revenir, bien sûr, sur tel ou tel passage particulier. Alors là, il y en aurait... Et ma sacoche était très lourde, j'ai apporté tous les instruments pour pouvoir répondre sur un point précis, mais personne n'a posé une question sur un point précis jusqu'à présent. Monsieur Berger ? Alors, Monsieur Berger ne pose pas vraiment une question, mais il dit qu'il remarque que Jésus-Christ, qui est le premier concerné, ne parle nulle part, d'après les évangiles, du millénium. Bon, mais bien sûr, les millénaristes interprètent quand même en général quelques passages des évangiles comme se rapportant au millénium. Donc nous n'allons pas entrer dans le débat à cet endroit. Oui, Monsieur Blatt. Alors, les millénaristes pensent-ils que le millénium est forcément de 1000 ans exactement, selon les années calendriers, ou non? Je crois que les opinions sont variables sur ce point. Que certains, et peut-être une majorité, sans se poser trop la question, disent « ce sera 1000 ans, 999 plus une, mais plus une année ». Mais que... il y a des avocats importants de la position millénariste qui sont prêts à dire pas forcément, ce n'est pas un point vraiment important. Monsieur Rerich. Alors, donc Monsieur Rerich dit que Monsieur Pache, dans son livre Le Retour de Jésus-Christ, aurait l'air de dater la venue de Jésus-Christ avant le millénium à l'an 2000. Je ne pense pas quand même qu'il soit si net que ça, mais c'est C'est vrai que nous avons beaucoup de peine à imaginer que le retour de Jésus-Christ puisse encore tarder pendant plusieurs siècles. Moi, je partage aussi le sentiment qu'il ne peut pas être si loin en termes de nombre d'années, de dizaines d'années. Alors, je reste prudent, car le Seigneur nous a avertis que ce n'est pas à nous de connaître ces temps et ces moments. Et je constate que des aînés, des devanciers que nous avons eus, très remarquables, à la fois par leur piété et par leur science, ont cru que ça allait être de leur vivant, ou très peu de temps après, et puis quand même, des siècles se sont écoulés. Donc, méfions-nous de notre sentiment à ce propos. J'avoue que j'ai ce sentiment aussi, et que, je dis quand même, les événements qui ont touché Israël en notre siècle sont des événements significatifs, qui font que nous avons quand même de bien meilleures chances d'être juste dans notre sentiment, que ça ne pourra pas durer maintenant très longtemps, par rapport à ceux qui avaient le même sentiment au début du XIXe siècle. Pour eux, les événements concernant Israël ne s'étaient pas encore produits, mais cela dit, restons prudents et vigilants. Oui, alors, M. Dougou, puis je pense que c'est la dernière intervention. Dans l'histoire du judaïsme, considère-t-on qu'il y ait encore des prophètes? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a une date indiquée pour la cessation du mouvement prophétique? Bon, le judaïsme aujourd'hui est extrêmement divers, donc ce que je vais dire n'est peut-être pas juste pour toutes les ramifications, toutes les versions. Entre les orthodoxes, les libéraux, les réformés, du judaïsme réformé, etc., les positions peuvent être assez variables, donc je ne sais pas trop. Mais, cela dit, je peux répondre fermement qu'il y a dans le Talmud, dans la tradition juive, la doctrine selon laquelle la prophétie, la grande prophétie, ayant une reconnaissance de type canonique, a cessé après Malachi. Cela est attesté aussi chez Flavius Joseph, l'historien du premier siècle. Et cela est exprimé par la formule « L'Esprit Saint a déserté Israël ». Donc, c'est quelque chose de très intéressant à relever. Et à ma connaissance, nulle part, aucun théologien du judaïsme a dit « L'Esprit Saint est revenu » à un certain moment. Dans l'histoire du judaïsme, il y a cette donnée, une cessation de la succession des prophètes reconnus, dont le dernier est Malachi, et nulle part il n'est question d'un retour de l'Esprit-Saint, d'une reprise, d'une nouvelle tradition proprement prophétique. Ça, je crois que c'est quand même très significatif. Je crois que ça a été voulu de Dieu que ça marque vraiment la clôture de l'Ancien Testament. Ce que les Juifs ne voudront pas admettre, mais en un sens, ils en rendent témoignage, comme malgré eux, par cette doctrine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, cette vision n'empêche pas qu'il y ait quand même des phénomènes prophétiques, censément. Vision, révélation, pour la piété juive. En fait, Flavius Joseph, que je cite, a joué de cela même. Vous savez comment il a échappé à la mort. Flavius Joseph était le chef de combattants, il était pharisien, après avoir été tout jeune essénien, mais il est devenu pharisien, était le chef des combattants en Galilée. Lors de la guerre où les Romains ont repris contrôle de la situation après la révolte des Juifs. Et finalement, avec son petit groupe, il a été forcé de se rendre. Et alors, il a vraiment eu l'intuition géniale. C'était le général romain qui l'arrêtait, qui allait le mettre à mort, et il lui prophétise, sachant que les Romains avaient du respect pour la prophétie israélite, ils disaient, oui, ils ont des prophètes dans ce peuple, il lui prophétise qu'il va devenir empereur. Et alors, il a eu la vie sauve. Et il est devenu rattaché à la famille, oui, c'est pour ça qu'il s'est appelé Flavius, parce que c'était la famille des Flaviens. Comme ça qu'il a eu ce surnom. Mais il avait échappé belle, et grâce à une prétendue prophétie qui s'est réalisée d'ailleurs, parce qu'il est devenu effectivement empereur. Donc le phénomène prophétique a continué, et dans le judaïsme plus moderne, il a une part dans le mouvement chassidique, le mouvement piétiste, où il y a des phénomènes de piété spirituelle, miracle, vision, etc. Ça fait partie du type de piété chassidique. Alors, ce sont des rabbins, c'est la continuité de maître à disciple qui est mise en valeur, pas l'idée de prophétie, mais dans cette piété très, très chaude, effervescente, très spéciale, parce que c'est un cercle fermé, il y a quand même des choses qui pourraient s'apparenter à la notion de prophétie. Voilà ce que je sais sur cette question. Alors, merci bien pour vos questions et pour votre attention. Donc, votre silence me semble avoir accepté la proposition que j'ai faite pour la fois prochaine. D'accord. Ouais.